Joris Carl-Louis Mans, un café. Près d'une gare de chemin de fer, à l'angle d'un square, se trouve un musée d'histoire naturelle où l'on joue et où l'on boit. L'endroit est somnolent et placide. C'est le café d'abonnés, sans clients de passage, le café dont la porte ne s'ouvre que sur des visages connus qui provoque de leur entrée des hurrahs et des rires. C'est le café où des rentiers, réunis tous les soirs autour d'une table, échangent en battant les cartes de médiocres aperçus sur la politique et s'intéressent longuement aux grossesses de la patronne et de la chatte. C'est l'estaminet où chacun possède une pipe avec son nom émaillé, une pipe de jour de l'an offerte par le garçon, qui dormasse d'invariable mémoire, le nez sur un journal et jette un piteux étrennant « Voilà !» quand on lui commande un nouveau boc. L'aspect de la salle est étrange. Au-dessus de divans à boutons capitonnés de cuir chocolat, deux vitrines aux boiseries grises, rechampies de filets bleu pâle, se dresse le long des murs, bondés du haut en bas d'oiseaux empaillés et repeints. L'une d'elles, située en face de la porte d'entrée, contient dans son rayon du bas des cygnes au bec de bois jaune, au ventre crevant de foin, au cou rétréci, inégalement bourré, dessinant des S blanches et des ibis sacrés, aux pattes ciragé à tour de brosse, aux têtes de ce rouge sale qu'à la confiture de groseille bue par le pain. Puis, sur les planches échelonnées jusqu'en haut, s'étagent diolés d'oiseaux, des grands, des moyens, des petits, des tortues, des bancroches, des droits, des volatiles aux airs de bons enfants ou de mauvais bougres, tendant des becs courbés en fer de pioche, allongés en pointe de clou, des becs simulant des canules et des pinces à sucre, et tous ont le même œil en cocarde, orange ou noir, le même regard idiot et fixe. Tous ont des habits couleur de muscade et de poivre, des plumages atrocement fanés, des dégaines bêtement satisfaites d'acteurs. Vue de près, la large et lugubre tache que jette dans les armoires vitrées cet assemblage de teintes mornes, montre en se décomposant, rangé sans distinction d'amitié et de caste, dans une promiscuité de misère et de vermine, des combattants, au nez en bec de seringue, regardant avec des mines hargneuses, échipies de petites cailles, l'œil au ciel, implorante et douce, égarés dans des dynasties de larges rousses et de bihorneaux, dans des farines entières de hérons attendant on ne sait quoi, fichés sur une patte, rêvant peut-être d'invraisemblables poissons empaillés comme elle. Trois oiseaux essaient pourtant de rompre la pleurarde harmonie de ce tableau avec leurs plumes qui vibrèrent jadis de ton vif. Un oisillon d'un soufre sali qui a perdu son étiquette, un relié figé tout gambadant dans son costume d'un affreux vert passé, et un faisan sentimental et lyrique, l'or et le feu de ses plumes éteints. En dépit de la triste et burlesque allure de ses hôtes, uniformément campés en randonnion, au port d'armes, les pattes trop vernies, collées sur des plateaux de bois noir ou perchées sur des branches ornées de fausses mousses, cette vitrine contraste magnifiquement avec l'autre qui semble le décrocher-moi ça d'une oisellerie de mélodrame. Là, en effet, s'accumule sur une série de planchettes tout un ramas de bêtes sinistres et laides, des groupes de hiboux ensevelis sous des couches de poussière, courbant des becs en sécateurs, fronçant des ailes couleur d'amadou et de cendre, des chouettes nébuleuses prétentieusement étiquetées sous le vocable latin Strix nebulosa, des chouettes de l'Oural avec des airs réfléchis d'aveugles, des grands ducs aux faces narquoises et féroces, des corbeaux mélancoliques et abétis, des gentlemen râpés, grelottant sous leurs minces habits de plumes noires. Un peu plus haut, ce cimetière de volailles-t-il se complète encore d'un lot de bêtes qui ont dû traîner à la salle des ventes, d'un paquet acheté dans une faillite, de choucas et de corneilles, plus aimables et plus mondains, regardant dégoûtés leur voisinage, une société de vieux milans désossés et bougons, se prélassant dans leur loques mangés au mythe, un clan de faucons aux allures de chenapans et de matamores, de busards aux grimaces de grincheux et de pets secs. Et le patron de cet établissement, l'inventeur de ce café-muséum, semble avoir été poursuivi par une idée fixe. Non content d'avoir bourré ses armoires de carcasses d'oiseaux conservées dans des aromates et dans du camphre, il a encore décoré ses fenêtres de stores jaunes, pareil à du sparadrap dégommé, arborant, par hasard sans doute, les armes de la ville de La Haye. Une cigogne tenant un serpent dans le bec. Il a enroulé autour des colonnes de son estaminet des pitons vernissés gonflés d'étoupes, tapissé son plafond de vagues esturgeons fixés à des crochets, de grands poissons plats semblables à d'énormes peignes, et enfin, comme une œuvre de choix, d'un vieux crocodile, les pattes écartées, la gueule ouverte, retapé avec du cuir de botte, sans bout de chicot ni dents, envahi par une armée de mouches qui manœuvre et fiante, cavalcadant entre les semelles de cette mâchoire. L'étonnement du garçon que des curieux consultent sur la provenance et sur la raison d'être de ce café est extrême. Croyant qu'on se moque de lui, il garde le silence d'abord, puis se rendant compte de l'innocence des gens qui l'interrogent, il répond, apitoyé et méprisant, « Bon, il y en a bien plus beau à Bar-le-Duc !» Et, satisfait de cette réponse, l'on embrasse d'un dernier coup d'œil en achevant de vider son verre la laideur de toutes ces livrées d'oiseaux, n'éprouvant aucun désir d'aller visiter Bar-le-Duc, songeant simplement devant ces tables de vieux rentiers, figés le nez sur leurs cartes, immobiles et comme conservés dans ce milieu funèbre, à un Versailles de pacotille, à une Égypte de Camelot, à une nécropole de volailles et d'hommes.